Avant de revenir à la question précise de la mémoire arménienne et de cette mémoire du génocide, je vais donc donner la parole à Philippe Dujardin, qui va essayer de donner un cadre plus large à cette question de la mémoire du traumatisme.
Merci. Merci. Pardon. Vous l'aurez peut-être noté, il n'y a pas de titre qui a été donné à cette conférence. Donc, je n'en proposerai pas. Mais je vais poser une question qui va me servir de fil conducteur. La question est très simple. Qu'avons-nous de commun? Qu'avons-nous de commun? Celle qui vient de parler, dont le nom dit les confins du Caucase, mais aussi ce qui vient d'être dit, et celui dont le nom dit plus simplement, pour ceux qui remontent parfois au nord de Lyon, des confins très proches, ceux de la Belgique wallonne et de la Flandre française. Qu'avons-nous de commun? Et qu'ont-ils de commun ceux dont nous allons parler, victimes, bourreaux, apatrides, patriotes, nationalistes, internationalistes, chrétiens, musulmans, arméniens, turcs? Qu'ont-ils de commun? Ils ont en commun, en tout cas ceux qui vont vous parler ce soir, un triple rapport au temps. D'être nés, nous ne l'avons pas fait exprès, dans un siècle qui a été dit déjà cataclysmique. Nous avons en commun d'être les uns et les autres, que nous le voulions ou non, d'être les héritiers d'un bien étrange patrimoine. Mais nous avons en commun aussi ce soir, positivement, ceux qui vous parlent, et vous, vous qui êtes là, donc nous avons en commun d'être non pas des conférenciers ici, mais et des auditeurs là, nous avons en commun d'être les acteurs d'un cérémonial, d'une opération rituelle. Nous avons en commun d'être nés, Jeannine Altounian l'a dit, elle l'a écrit, dans un siècle cataclysmique. Qu'est-ce à dire? Traduisons, elle traduit. Un siècle de destruction hors de mesure. Hors de mesure. Un siècle d'hécatombe. Je rappelle qu'hécatombe, dans le sens religieux, grec, enfin que les Grecs anciens pouvaient lui donner, était le sacrifice que l'on faisait d'un grand nombre d'animaux, très précisément 100, 100 bœufs. C'est là le sens précis de hécatombe. Par analogie, donc, hécatombe en est venu à désigner un massacre d'un grand nombre de personnes ou d'animaux. 100. Mais comment dit-on 100 fois 10 000? Et comment dit-on 10 fois 1 million? Puisque le siècle cataclysmique dont nous parlons aura produit à l'orée de son cours ce que nous n'arrivons pas à déterminer, puisque, recherchant ce chiffre ces jours-ci, des morts de la Première Guerre mondiale, le chiffre oscillait entre 7 et 10 millions de morts. Quant aux blessés, plusieurs dizaines de millions de morts, de blessés, pardon. Donc le chiffre impossible à donner, impossible à nommer, à donner. Nous sommes donc dans ce que le mot grec murios va dire, qui est 10 000, mais murios va dire aussi au-delà de 10 000, ce qui ne peut plus se compter, innombrable. Nous sommes nés dans ce siècle-là, le siècle de l'innombrable, des morts et des blessés. Nous sommes nés dans un siècle d'une hécatombe sans pareil, puisque elle a porté dans l'Arménie sur les victimes qui n'étaient pas sur le front, qui n'étaient pas des soldats, mais des civils. Et que l'acte qui a été accompli là a pu être nommé, c'était la première fois que je trouvais ce terme, donc en lisant le conférencier que vous avez écouté la semaine dernière, Yves Ternon, d'extirpation. Donc une hécatombe sans pareil, quand elle porte sur une population civile et quand elle vise à l'extirpation d'une nation au dehors de la communauté des nations. Alors ce temps-là, cataclysmique, bien évidemment, vous le connaissez, donc on le décrit, c'est un temps de la mort de masse. Si on fait autre chose que décrire, on peut entrer dans une analyse à ce moment-là de ce temps-là qui est le nôtre, qui est le temps que nous partageons. Ce temps-là n'est pas simplement un temps de la mort de masse, c'est un temps de la finitude, de la fin de quelque chose, qui n'est pas l'individu, qui n'est même pas la communauté ou la nation arménienne. Mais ce temps-là a pu être dit, c'est Valéry en tout cas, Paul Valéry, qui va avancer cette formule en 1930 à peu près, le temps de la fin d'une civilisation. Civilisation religieusement chrétienne, mais c'était au nom du même Dieu que les uns et les autres s'étaient entretués, et civilisation philosophiquement rationaliste et éclairée, l'âge des Lumières. Fin de cette civilisation-là. Car plus jamais, on ne pourra écrire, comme l'avait fait Condorcet, donc héros de l'âge des Lumières, le tableau des progrès de l'esprit humain. Ce tableau-là est désormais impossible, puisqu'à tout jamais, le tableau sera de l'ombre et de la lumière, du courant et du contre-courant, de la civilité et de la barbarie. Le barbare n'est plus au dehors, le barbare est dedans, désormais à tout jamais. Donc, temps d'une mortalité qui n'est pas celle des individus, qui n'est pas celle des nations même, qui est peut-être le temps d'une civilisation. Deuxième façon de caractériser ce temps que je dois à Jean Cayrol, donc l'écrivain, le poète, le résistant, déporté en 1942 à Mauthausen, libéré en mai 1945. En revenant dès 1945, puis en 1946 et en 1950, Jean Cayrol écrit et il produit un texte, vous en connaissez les effets, ce sera le scénario de Nuit et brouillard, le film de René, mais il va surtout produire un texte appelé Le temps de Lazare, le temps de Lazare. Et donc il va qualifier le temps qui est le sien, lui qui a survécu au camp, de temps lazaréen. Le temps lazaréen, l'Évangile le dit, nous le connaissons, c'est le temps de quelqu'un qui a survécu à sa propre mort. Le temps de quelqu'un qui a survécu à sa propre mort. Et c'est Georges Semprin qui, beaucoup plus récemment, donc dans l'ouvrage très fort, « Vivre ou écrire », dit « Nous ne sommes pas des rescapés, mais des revenants, la mort, nous l'avons vécue. » La mort, nous l'avons vécue. La mort est derrière moi et pas devant moi. Donc nous sommes dans ce temps lazaréen où des individus, Cayrol, et peut-être une nation, au sens évidemment classique du terme, la nation arménienne, a vécu sa propre mort. Nous sommes troisièmement dans un temps qui n'est pas le temps historique, et le mot cataclysme le dit. C'est un temps cosmique. Cataclysme dit le déluge, le flot qui recouvre tout. C'est un tsunami. Le déluge de la guerre 14, c'est le déluge de fer et de feu. Ce temps-là est un temps cosmique. C'est un temps cosmique parce que les effets d'onde qu'il produit sont illimités. Les effets d'onde sont incalculables. Les effets d'onde sont incommensurables. Les effets de souffle ne s'arrêtent pas. Le temps qui est dit là est un temps géologique. Ce n'est pas un temps historique. Et de ce temps-là, qui est un temps cosmique, l'homme n'est pas la mesure et l'homme n'a pas la mesure. Le temps de la mortalité de la civilisation européenne, le temps lazaréen de Jean Cayrol, et la nation arménienne, le temps cosmique qui est dit dans Cataclysme est le temps d'un homme qui fait, mais qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne saura jamais ce qu'il fait. C'est le temps, que dit Shakespeare, c'est le temps du temps hors de ses gonds. Ce temps-là n'est pas un temps humain. Nous avons en commun d'être les héritiers d'un bien étrange patrimoine. Et je rappelle la définition juridique, patrimoine, ensemble des biens et des obligations d'une personne dans lequel entrent les actifs et les passifs. Donc nous transmettons activement et passivement, aussi bien dans le sens notarial habituel, usuel, vous transmettez vos dettes comme vos avoirs. Et nous voulons systématiquement oublier que nous transmettons aussi nos dettes. Le mot patrimoine aujourd'hui a un autre sens que le sens juridique que je viens de donner. L'UNESCO distingue trois types de patrimoine, c'est une acception métaphorique. Le patrimoine naturel des espèces animales et végétales, le patrimoine des monuments historiques et des sites historiques, et désormais, depuis quelques années seulement, le patrimoine de ceux qui n'ont rien, ni en monuments, ni en site, ni en espèces à protéger, et qu'on appelle le patrimoine immatériel. Les contes, les légendes, les langues. Et quand une nation a été dessaisie de son patrimoine au sens actif, il lui reste au moins un patrimoine immatériel. Quand la condition sociale d'une famille ou d'une personne n'autorise pas la transmission du patrimoine, il y a un patrimoine qui se transmet, qui est un patrimoine immatériel. Mais étrange patrimoine immatériel que le nôtre. Je suis né en 1945, là où j'ai dit tout à l'heure, à la frontière belge. Le vocabulaire dont j'ai hérité, c'est celui de deux exodes. Premier exode, la Première Guerre mondiale, qui a mené ma grand-mère maternelle de Lille à Lyon. Quand elle est revenue chez elle, il ne restait rien, ni de sa maison, ni du pâté de maison, puisque le village était sur la ligne de front. Le village avait disparu, totalement disparu. C'était le langage d'un deuxième exode, exode de la Seconde Guerre mondiale. Là, la même famille se retrouve cette fois en Normandie et revient dans une maison pillée. C'est le langage de l'exode. C'est le langage des dommages de guerre, des réparations. Et c'est peut-être et surtout le langage qui désigne l'ennemi, avec des termes anciens, étranges, le hulan, ce cavalier qui fait peur, et le Bosch. Je n'entends jamais dire allemand, Bosch. Les Bosch. C'est un vocabulaire, c'est le vocabulaire de l'enfance. Ce vocabulaire-là ne nourrit aucun récit, aucune suite ordonnée, intelligible. Il nourrit un patchwork d'anecdotes, des anecdotes. Il ne nourrit aucun récit parce que l'un de mes grands-pères étant mort, jeune, l'autre avait survécu à 3 ans de service militaire et 4 ans de guerre. Il a porté l'uniforme près de 8 ans. Et celui-ci, qui avait porté l'uniforme près de 8 ans, n'a jamais parlé. Ce dont nous avons hérité, c'est d'un silence absolu, radical, obstiné, de celui qui a enfoui 7 ans de sa vie, définitivement. Silence d'un taiseux, comme on dit chez moi, quelqu'un qui parle peu, sans doute. Silence de réserve, de protection, de pudeur. Silence de celui qui a vu, c'est le sens latin du terme obscène, ce qu'il aurait fallu ne pas voir. Silence de l'enfouissement. Silence, c'est ce que dit Saint-Prin en tout cas, de celui qui veut survivre. Survivre. Mais silence, pour nous, sans doute, sidérant. Sidérant voulant dire qui interdit, qui méduse, qui stupéfie. Mais ce n'est pas le silence d'une personne. Quand j'ai ouvert ces jours-ci le livre de Terminal qu'on m'avait remis en 1962, qui ouvrait sur les civilisations contemporaines, on inaugurait ce programme à l'époque, les auteurs de ce programme s'excusent de devoir entrer en matière par le récit d'une guerre mondiale. S'excuse. Et ne donneront aucun chiffre, ni chiffre de morts, ni chiffre de blessés, ni chiffre des destructions. Le mot génocide n'apparaît pas, évidemment. Le patrimoine immatériel, c'est celui des lieux que l'on fréquente ou que les parents ont fréquentés. Nous sommes du plat pays, comme on dit. Il y a deux lieux hauts à 160 mètres qui dominent la plaine de l'Artois et le bassin minier. Sur l'un, la colline de Lorette. Sur l'autre, donc, Vimy, avec le parc mémorial canadien de Vimy. La colline de Lorette et la colline de Vimy étaient le lieu d'excursion du dimanche pour mes parents, à quelques kilomètres à pied de leur lieu de résidence. Mais sur la colline de Lorette, il y a une nécropole de 19 000 croix. Il y a une tour ossuaire de 22 970 corps de jeunes inconnus. Inconnus. Sur la colline de Vimy, colline voisine, se trouve donc, propriété du gouvernement canadien aujourd'hui, le parc mémorial canadien de Vimy. Gigantesque monument inauguré, écoutez bien, le 26 juillet 1936, donc à 3 ans du début de la Seconde Guerre mondiale. Ce monument est dédié aux 60 000 morts canadiens qui se sont battus sur cette colline et sur d'autres champs de bataille. Et sur les parois de ce monument sont inscrits les noms de 11 285 soldats canadiens manquant à l'appel et présumés morts en France. Présumés morts en France. Le patrimoine dont j'hérite, à ce titre, est un patrimoine qui est saturé de bombes, d'obus, de morts, de monuments funéraires. Mais il y a pire que la mort, vous avez entendu. Il y a le mort inconnu et le présumé mort. Il y a pire qu'un soldat mort, il y a un soldat disparu. Les militaires ont leur vocabulaire prêt pour cela. Mort, blessé, disparu. Trois catégories normales dans le vocabulaire militaire. La catégorie juridique aussi existe d'un disparu. Ni mort, ni vivant. Celui dont le décès n'a pas pu être attesté et celui dont les biens ne peuvent être dévolus, puisque son décès n'est pas attesté. Mais quelle catégorie aujourd'hui inventée pour dire la disparition de masse? Pas celle des soldats, mais la disparition de masse qui nous concerne ce soir. Étrange patrimoine. Étrange patrimoine qui a enrichi notre vocabulaire, puisque si les documents de référence que j'ai utilisés sont justes, la formule « crime contre l'humanité et la civilisation » a pu être employée, inventée, dès 1915. Patrimoine éminemment négatif, encore, puisqu'il a comme condition l'extirpation de la nation arménienne, de l'ensemble des nations. Mais, entendons bien aussi, patrimoine peut-être très paradoxalement positif, puisque crime contre l'humanité et la civilisation pourrait laisser entendre que désormais, le crime contre une partie des nations advient, je dis bien, comme un crime contre le tout des nations. Que le crime contre un élément de l'ensemble est un crime contre l'ensemble. Que désormais, donc, à partir de 1915, la partie répond du tout et le tout, définitivement, doit répondre de la partie. Patrimoine, donc, je dis, très paradoxalement positif, puisqu'il faudra l'effet d'onde du deuxième cataclysme, Seconde Guerre mondiale, de la deuxième catastrophe, grand C, la Shoah, pour que crime contre l'humanité devienne une catégorie juridique opératoire. Vous en connaissez les conditions, je ne les rappelle pas. Et que crime de guerre et crime contre l'humanité deviennent ensuite des crimes imprescriptibles en droit international ou en droit interne. Donc patrimoine immatériel, je dis très paradoxalement positif, puisque le précédent de la catastrophe arménienne n'a rien empêché. Ni cette guerre, la première dont j'ai parlé, ni cette catastrophe n'ont été les der des der. Le précédent donc, de la catastrophe arménienne a cependant, concouru à la promotion d'une figure de l'humanité peut-être nouvelle, l'humanité enfin à jamais non discriminable, non hiérarchisable. Mais nous sommes ce soir dans le temps d'une action commune. Nous ne sommes pas dans le temps de la mémoire. Nous sommes dans le temps d'une action commune qu'on appelle un cérémonial commémoratif. Et nous sommes les acteurs, ce soir, vous et nous, d'une séquence, parmi d'autres, d'un grand cérémonial, puisqu'il nous a été présenté dans le donner à voir donc de l'exposition éphémère, que le maire a cité tout à l'heure, le donner à voir de la monumentalité pérenne du mémorial, et ce soir, dans la forme, une forme parmi d'autres, donner à entendre, la mise en mots. C'est une séquence parmi d'autres qui n'a lieu qu'en réponse à la sollicitation d'une collectivité publique qui a ordonné ces opérations, qui a financé ces opérations. Et ce rituel, ici, est strictement civil. J'ai assisté à un rituel religieux dimanche à Lyon, donc dans la cathédrale Saint-Jean, comme vous sans doute. C'est un rituel civique, civil et civique. Troisièmement, si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas pour faire mémoire seulement, c'est pour servir une cause. Puisqu'une commémoration tire son efficacité d'honorer la mémoire des morts, certes, dans le présent de son action, c'est ce que nous faisons ce soir, au profit d'un futur. Passant, n'oublie pas. Voilà. Très simplement. Passant, n'oublie pas. Et ici, donc vous l'avez vu, samedi après-midi, a été inauguré un monument très étonnant. Très, très étonnant. Puisque le futur qu'il dessine se donne dans une forme verbale extrêmement rare, reconnaître. Donc c'est une forme verbale, ce n'est pas reconnaissance, ce n'est pas un substantif. C'est une forme verbale, reconnaître. Donc c'est un prescriptif. Prescriptif. Nous ne sommes pas dans le négatif du plus jamais ça, nous sommes dans un autre ordre de réalité, le prescriptif. La mairie et la communauté arménienne, ce faisant, en consentant à ce rituel et en ordonnant ce rituel, dans la forme que j'ai dite ici à Villeurbanne, qui est strictement civile et civique, nous inscrit dans un double lignage religieux et profane. Mais ce faisant aussi, et j'en terminerai par là quasiment, nous ne reconduisons pas un passé. Nous nous inscrivons dans un ordre de réalité premier, initial, celui qui n'a rien à voir avec les catégories grammaticales du passé, du présent, du futur, qui est un présent qui demeure à jamais. Je vais dire lequel, ou essayer de dire lequel. Accomplir le rituel, c'est d'emblée s'inscrire dans un lignage religieux. La définition que donne le dictionnaire historique de la langue française de commémoration est la suivante. Cérémonie en souvenir d'un saint ou d'un événement religieux. Il faut donc nous étonner qu'à Villeurbanne, nous puissions être dans une commémoration strictement civile et civique quand l'origine du geste est religieuse. On en connaît les sources, au moins la tradition juive, la tradition chrétienne, la tradition musulmane qui embraye sur les précédentes. La tradition juive s'atteste facilement dans un énoncé, un verbe aussi, et dans des rituels. Le verbe est connu, c'est un impératif aussi, « Zahor, souviens-toi ». 230 fois, ce verbe apparaît dans la Bible hébraïque. « Souviens-toi, Israël ». Et Israël se souvient aussi donc de l'alliance qui a été nouée entre le peuple et le Dieu qui a élu ce peuple. Il y a les rites, évidemment, aussi de commémoration, rite de Pourim, victoire des Juifs sur les Perses, rite des tentes, et rite surtout de la Pâque. La mémoire, donc, est celle d'une élection. La mémoire est celle d'une action salvatrice, Dieu a sauvé. Et la mémoire est promesse d'un salut, le Messie viendra. Donc la mémoire est projective. La mémoire est une mémoire du futur, toujours. La tradition chrétienne ne fait que relayer celle-ci dans son plus grand rituel, qui est le mémorial eucharistique, celui par lequel il est fait mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Sauveur. Mais aussi dans un rituel parfaitement connu par les touristes et tous les automobilistes que nous sommes, mais dont on oublie aujourd'hui les conditions exactes de promotion, c'est la Toussaint, un des grands rituels chrétiens de la commémoration, et le double rituel, en fait, qui a été inventé au Xe siècle, pas très loin d'ici, par les moines de Cluny, de commémoration des saints le premier jour et de commémoration des défunts le lendemain. C'est ce que nous amalgamons, donc aujourd'hui, fête de la Toussaint, sans plus savoir exactement ce que nous nommons. Nous sommes aussi, évidemment, dans le sillage, dans le lignage d'une tradition profane, séculière, de la commémoration. La commémoration prend son sens contemporain, le sens villeurbanais que Villeurbanne lui donne, pendant la Révolution française. Et Chateaubriand serait le premier à avoir utilisé dans un sens séculier et profane le verbe « commémorer ». Donc c'est lui qui aurait fait sortir du sens religieux initial le verbe « commémorer » pour l'appliquer à quoi ? Eh bien, évidemment, aux grandes liturgies politiques que les révolutionnaires inventaient et dont nous sommes les héritiers. Trois matrices de nos rituels séculiers, politiques, la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. On honore non pas des morts, je vous le ferai remarquer, les héros de la Bastille ne sont jamais cités, jamais. Donc ce sont des morts anonymes. On honore un geste qui est un geste insurrectionnel et on honore des valeurs, ou la valeur qui est la valeur de la liberté. Autre exemple, la colonne de la Bastille. La plupart des manifestants qui partent de la Bastille ou se rendent à la Bastille donc ignorent ou savent mal. Donc ils honorent en fait les héros et les martyrs des journées du 27, 28, 29 juillet 1830. Et que les corps des victimes des combats de ces journées-là ont été déposés, et on leur a appliqué cette fois la qualité de héros et de martyrs donc de la nation, ont été déposés dans la crypte qui se trouve sous la colonne de la liberté de la Bastille. Troisième rituel majeur et qui va nous faire changer d'époque, on pourrait dire la nationalisation du rituel commémoratif. 36 000 communes de France en 1918, 36 000 monuments aux morts. Et ce n'est pas l'État qui commande, ce sont les communes qui financent et qui honorent leurs morts. Je dis nationalisation, c'est-à-dire que pour la première fois, sans doute, l'initiative d'un rituel commémoratif majeur échappe à l'État. Et nous entrons par là dans un temps qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le temps des journées du souvenir, de la déportation, journée du souvenir, de la résistance, journée du souvenir, de la libération de tel camp et puis de tel autre camp, journée du 24 avril, dans le temps des journées du souvenir, qui ne sont pas l'initiative de l'État, qui ne sont pas l'initiative des religions. Donc nous sommes entrés progressivement dans un siècle très étrange, un âge donc séculier et démocratique de la commémoration. Les religions n'ont plus le monopole de la commémoration et les États n'ont plus le monopole de la ritualité commémorative. Et ils n'ont plus, les religions, les États, le monopole de la production commémorative parce qu'en fait, ni les religions, ni les États n'ont jamais eu le monopole de la production du sacré. Et que la production du sacré est le fait de tous, hors religion, hors État, hors nation, hors famille, est le fait de tous. S'il y a une chose commune au monde, S'il y a une chose commune par excellence, res publica, quelle est-elle? C'est la compétence rituelle. Et spécialement la compétence rituelle funéraire. Elle n'est le fait d'aucune tradition religieuse, elle n'est le fait d'aucune tradition nationale, elle n'est le fait d'aucune tradition étatique. Cette compétence rituelle est décidément hors d'âge. Je disais que les catégories grammaticales ne s'y appliquent pas, puisqu'elles relèvent d'une très lointaine préhistoire. On relève les premières traces d'industrie des hominidés à 2,4 millions ou 2,6 millions d'années, les premiers galets taillés. Les premières traces d'habitat ont le même âge. La domestication du feu est attestée avec certitude en Europe et en Asie à moins 400 000 ans avant Jésus-Christ. La première trace de rituel funéraire apparaît avec certitude à moins 100 000 ans avant notre ère. Et la première trace de crémation à moins 26 000 ans avant notre ère. Que je sache, les religions constituées, institutionnelles, monothéistes ou pas, étaient loin d'avoir été créées. Donc les religions n'ont pas, les États n'ont pas, les familles n'ont pas, les partis n'ont pas le monopole de la production du sacré. Cette compétence est loin d'être innée. Il n'a fallu que 2 millions d'années à peu près pour qu'elle se l'apparaisse. Mais elle a eu lieu, à moins 100 000 ans, avec certitude. Donc c'est cette compétence rituelle qui est à tout jamais fondatrice du sacré, c'est-à-dire d'une opération relativement simple qui consiste à séparer, distinguer les ossements du reste et à protéger cela qui a été distingué et séparé, à peine de sanction. Séparer, distinguer, protéger, c'est rendre au sens latin sacro-saint, séparer et protéger, sacer et sanctus. Séparer, distinguer, protéger, donc sacraliser, c'est instituer un ordre devant le désordre maximal, qui est celui de la décomposition du corps, rétablir un ordre. Devant la discontinuité maximale, qui est celle des générations, rétablir une continuité. Continuité au profit du défunt, à qui on promet un futur. Sinon, à quoi bon l'inhumer? Continuité au profit du vivant, à coup sûr, qui peut instaurer un lignage, qui peut installer sa position dans un lignage qui pourra désormais invoquer des ancêtres. Donc, sacraliser, au sens qui vient d'être dit, c'est sans doute opérer dans l'espace. Il y a des temples, des chapelles, des monuments aux morts pour cela, des mémoriaux. Sacraliser, c'est opérer dans l'espace, oui, mais sacraliser, c'est aussi en même temps opérer dans le temps et sur le temps. Et ce sera ma conclusion. Rendre impossible le commerce, ou je préférerais dire l'entretien des morts et des vivants. Rendre impossible l'entretien des morts et des vivants, soit que les vivants ne puissent plus accéder au lieu où séjournent les morts. Soit que les tombes ou urnes aient été profanées. Soit pire, que les morts ne soient pas des défunts, mais des disparus, non situables dans l'espace, non situables dans le temps. C'est rompre non pas avec des usages, des coutumes, c'est rompre avec les conditions de l'hominisation extraite d'une chaîne de 100 000 années. Donc c'est commettre autre chose qu'un crime, c'est commettre un sacricide, un sacrilège. Si on accepte donc cette conclusion, si cette compétence rituelle funéraire est la première des premières, celle en tout cas que l'histoire de l'humanité, ou de ses préambules, de son prologue, long prologue, permet d'attester. Si cette compétence est la compétence la plus commune au monde, alors, quand cette compétence-là est déniée, c'est au commun des humains, turcs, arméniens, mais tous les humains, d'inventer les formes dans lesquelles le déni d'humanité sera réparé.